Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesseling au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension du genre dans la construction de la paix en Colombie. En 2016, après des décennies de conflits armés, le gouvernement colombien et le principal groupe de guérilla, à savoir les FARC, les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie, ce gouvernement et ses forces armées signent un accord de paix historique, un accord qui promet de mettre fin aux affrontements et propose en outre un nouveau pacte social destiné à réduire les inégalités à l'origine du conflit. Quelques années plus tard, force est de constater qu'on assiste à une reconfiguration du conflit et l'accord de paix n'a pas mis un terme, malheureusement, aux violences. France Hubert mène une thèse qui porte sur la participation des femmes rurales au processus de paix en Colombie, plus particulièrement dans les zones où le conflit persiste. Elle est notre invitée aujourd'hui. Elle explore en gros la dimension du genre dans la construction de la paix, dans le sillage des études féministes sur la paix et les conflits. France Hubert est une doctorante en sciences politiques attachée au CEVIPOL, le centre d'études de la vie politique de l'ULB. Elle nous parle donc de son sujet de thèse dans un tout petit instant. Bonjour. Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler de votre thèse de doctorat qu'on va découvrir dans un instant. Je vous présente d'abord en quelques mots. Vous êtes membre du CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes doctorante en sciences politiques, donc on l'a compris. Vous avez effectué un bachelier en sciences politiques et un master en relations internationales. Et puis maintenant, vous en lancez pour plusieurs années. Dans votre recherche doctorale, vous êtes chercheuse FRNRS depuis octobre 2023. Et votre thèse porte sur la participation des femmes rurales au processus de paix en Colombie, plus particulièrement dans les zones où le conflit persiste encore aujourd'hui, malgré les accords de paix de 2016, dont on ne manquera pas de parler dans un instant en France Hubert. Alors vous explorez la dimension du genre dans la construction de la paix. Et ça, vous nous expliquerez sans doute ultérieurement dans le sillage des études féministes sur la paix et les conflits. Alors comment votre intérêt, France Hubert, s'est-il porté sur ces questions de paix et de conflits? Comment elles ont été éveillées d'une certaine manière?
Ok, donc merci de m'avoir invitée pour parler de ma thèse. Donc en effet, j'ai fait un séjour culturel après ma dernière année de secondaire en 2016. Et donc, je suis arrivée en août 2016 et en octobre...
L'année de l'accord de paix.
Il y avait un référendum. Donc, en gros, pour faire simple, c'était oui ou non à la paix. Et les gens ont participé. Bon, le taux de participation était très, très bas et ça s'est joué à très peu. Et en fait, les gens ont majoritairement voté non. Donc, de là...
Voter non à la paix.
Non à la paix. Et donc, de là, enfin, je ne comprenais pas. En plus, bon, on est un peu insouciant à cet âge. Et donc, je me disais, mais ce n'est pas possible de voter non à un accord de paix. Parfois, j'ai encore du mal à comprendre. Mais en fait, après, en me renseignant un petit peu, je remarque que... Donc, à la base, c'était des recherches très simples avec les outils que j'avais à ma disposition à ce moment-là. Donc, je n'avais pas encore commencé mes études.
Mmh. Vous aviez 18 ans.
Voilà, j'avais 18 ans. Donc, c'était une curiosité, quoi. Qu'est-ce qui s'était passé? En plus, je vivais dans une ville où je ne voyais pas trop comment... Je ne comprenais pas vraiment ce conflit. Je ne voyais pas de traces de ce conflit.
Quelle ville, en l'occurrence?
C'était une ville près de Bogota qui s'appelle Fusa Kasuga.
D'accord, voilà. Près de Bogota.
Près de Bogota, exactement. Et donc, voilà, de là ma curiosité. Après, on se rend compte qu'en fait, dans les zones les plus touchées par le conflit, les gens ont majoritairement voté oui à l'accord de paix. Puis, il y a eu toute une campagne par les forces les plus conservatrices... qui a embarqué tous ces gens à voter non. Mais donc de là, ma curiosité. Et puis après, pendant mes études, c'est toujours ces questions-là qui m'ont intéressée. Donc plus ce côté relations internationales en tant que discipline. Et puis, quand on nous dit en Master 1, voilà, il faut choisir un sujet de mémoire. Et je me suis tout de suite dit, OK, ça, c'est très bien, j'ai déjà trouvé. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis intéressée.
C'était resté gravé dans votre mémoire.
Oui,
avant d'en devenir un mémoire.
Oui, exactement.
Ouais. Et alors, c'est incroyable, mais quand même, gardons un moment, ce moment-là, sur la table, pour l'évoquer ensemble encore, France Hubert, parce que comment est-ce qu'un pays peut majoritairement dire non à la paix.
Voilà, en fait...
Vous parlez de forces conservatrices qui n'ont pas d'intérêt, j'imagine, à ce que
selon
la paix
eux,
émerge.
C'était beaucoup trop laxiste. Et donc, en fait, quand on fait un processus de paix, quand on signe un accord, de toute façon, on va devoir mettre certaines choses de côté. Mais en fait, ces forces conservatrices trouvaient que les FARC s'en sortaient trop bien et qu'il fallait une justice bien plus punitive... pour ces hommes et ces femmes.
D'accord, c'est sur les modalités de la question.
Exactement, oui.
Alors, on rappelle un peu les faits, pour y voir clair. Et donc, ça, c'est l'année de votre voyage après les secondaires, en 2016, après des décennies de conflits armés, le gouvernement colombien et les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui sont à l'époque le principal groupe de guérilla, même s'il y en a d'autres, ils signent un accord de paix, un accord historique qui promet de mettre fin aux affrontements. Et propose un nouveau pacte social, dites-vous, destiné à réduire les inégalités à l'origine du conflit. Mmh. Et puis aujourd'hui, on assiste à une reconfiguration de ce conflit. Ça veut dire que l'accord de paix n'a pas véritablement mis un point final à ces violences. Ça se voit sur le terrain, vous qui êtes une adepte du terrain, on en parlera.
Oui, ça se voit directement. Donc, dans certaines zones, et en fait, il ne faut pas non plus mettre tout cet accord de paix à la poubelle. Il y a une justice transitionnelle en cours. Il y a des restitutions de terres qui avaient été volées. Enfin, ça fonctionne dans une certaine mesure. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup parlé de post-conflit. On a beaucoup parlé... Il y avait beaucoup d'espoir. Mais on a un peu fait comme si les FARC étaient le seul problème de la Colombie à ce moment-là. Mmh. Or, c'est faux. Il y a toujours eu d'autres groupes armés. Et en fait, ces groupes ont pris la place des FARC quand les FARC ont... se sont démobilisés. Et alors, on voit encore, il y a encore aujourd'hui des massacres. Donc, on se réfère à massacres quand on parle de plusieurs personnes qui sont tuées. Il y a encore des homicides. Il y a encore. Enfin, je veux dire, il y a encore toute cette violence. Donc, ça, c'est de la violence directe. Il y a encore des déplacements forcés. Donc, ça veut dire qu'il y a des groupes armés qui disent à un moment, ils arrivent dans un village, ils disent bon, allez hop. Vous gênez, en fait, quand vous habitez ici, vous nous gênez pour nos activités illégales, que ce soit l'extraction minière ou la culture de coca. Vous gênez, et voilà, vous déplacez maintenant. Et donc ça, c'est de la violence directe, mais il reste toutes sortes de violences plus structurelles aussi, quoi. Mais c'est clair que ça n'a pas mis fin... Dans certaines zones, ça s'est amélioré. Dans certaines zones, ça s'est même dégradé.
Mais vous, France Hubert, vous privilégiez une approche de terrain. Hein, pour votre recherche, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, de voir comment ça se passe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie-là?
OK. Donc ça, pour moi, ça reflète de ma vision de la science. Donc comment est-ce qu'on fait de la science? Comment est-ce qu'on sait qu'on sait? Et quelle méthode est la plus appropriée pour nous? Donc moi, je me suis beaucoup inspirée des études féministes sur la paix et les conflits, qui en général privilégient la méthode de terrain. C'est pas le cas que pour les études féministes sur la paix et les conflits, parce que voilà, d'autres champs en sciences politiques font aussi du terrain. Souvent, c'est des terrains inspirés de la méthode de l'anthropologie, donc en immersion prolongée. Voilà, ça reflète de comment je pense qu'on doit faire de la science, parce que j'ai l'impression que si je restais dans mon petit bureau à Bruxelles, sur le campus du Solbosch, en fait, j'en saurais jamais tant. Et je pense que ça passe par cette expérience de terrain, de comprendre, mais aussi, en fait, de vivre. Ici, la chercheuse que je suis, je me transforme en une espèce de cannelle, parce que, c'est pas la même chose de savoir qu'il y a des groupes armés que de les voir. C'est pas la même chose de savoir qu'il y a des groupes armés que de voir leurs tags écrits partout, ou de sentir un peu la peur qu'on a quand on passe à un checkpoint, ou de... Enfin, ça, ça, se rapproche de l'expérience des gens qui vivent sous le joug des groupes armés.
Alors vous dites que vous êtes intéressée à la manière dont les études féministes se sont penchées sur des questions diverses, mais donc vous l'avez pris à votre charge. Être une femme chercheuse sur le terrain, c'est plus difficile, pensez-vous, qu'un homme dans des situations où le danger guette quand même?
Bah, y a un peu deux choses. Donc, a priori, de toute façon, être une femme dans un monde patriarcal, c'est jamais très facile, ici ou ailleurs. On m'a dit, mais voilà, ça c'est, j'ai pas encore fait totalement mon avis là-dessus, mais on m'a dit que être une femme dans certains cas, ça, c'était plutôt mieux. C'est des chercheuses, travailleuses humanitaires qui m'ont dit ça, qu'elles se sentaient protégées parce que dans cette espèce de code, on ferait moins de mal à une femme, donc voilà, les acteurs armés feraient moins de mal à une femme dans ce cas-là. Ça, c'est leur avis. Voilà, moi, je fais confiance parce qu'elles savent ce qu'elles font. Elles travaillent dans les zones depuis hyper longtemps. Mais je veux dire, j'ai pas encore vraiment un avis tranché sur la question. J'ai l'impression que ça pose des dangers différents. Mais c'est vrai que, voilà, il y a cette idée, les femmes et les enfants, voilà quoi.
Vous avez rencontré, donc, vous allez à la rencontre, à observation sur le terrain, des gens qui vivent dans ces communautés, dans ces villages, mais aussi, vous venez de l'évoquer, France Hubert, des gens qui travaillent en tant qu'humanitaires. Ouais. En fait, votre travail, c'est de faire une analyse par le bas, dites-vous. Oui. Une analyse de la construction de la paix par le bas. Alors, quoi, j'ai relevé deux anglicismes, bottom-up ou grassroots approach.
Voilà, exactement. Donc, en fait, quand on a commencé à s'intéresser donc, au conflit et à la construction de la paix, on peut prendre l'idée... Donc, l'idée de l'accord de paix, c'est que c'est la paix qui va ruisseler, donc trickle-down effect. On se dit, ok, les élites, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le gouvernement colombien, donc avec toutes ces élites, les chefs les plus haut placés des FARC font un accord, et puis on pense que cet accord, il va ruisseler vers le bas. Et donc...
Naturellement.
Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est un effet aussi qui vient vers le bas. De toute façon, les gens... du bas, ont toujours eu des actions, des comportements pour favoriser, si pas la paix, au moins une bonne entente ou une entente cordiale, tout simplement pour se protéger.
Et pour donc, construire une paix quotidienne, comme vous dites.
Exactement, voilà. Et donc, c'est cette approche par le bas, moi, qui m'intéresse. Après, il y en a qui étudient l'accord en tant que tel, la présence de femmes négociatrices... cette idée de construction de la paix, on peut l'approcher par n'importe quel angle. C'est moi qui choisis de l'étudier par le bas.
Voilà, des enquêtes de terrain avec des femmes rurales, vous faites des entretiens, des observations participantes, et puis évidemment des documents, la littérature ne vous échappe pas. Mais votre principal point d'intérêt, c'est effectivement d'aller à la rencontre, au contact.
Oui. Mais j'estime qu'en fait, en tant que personne marginalisée, que femme marginalisée, parce qu'elles sont rurales, elles sont autochtones, noires, elles vivent dans des zones que la capitale a souvent regardées comme étant, quand on a colonisé, comme étant sauvages, comme étant, sauvages entre guillemets bien sûr, mais comme étant arriérés, voilà. Il y a vraiment en Colombie cette division centre-périphérie qui est très marquée. Et donc, ce sont des femmes marginalisées. Et je pense qu'en fait, de par leur position, elles renferment un savoir, elles ont un savoir sur ce qui se passe, même au plus haut niveau. Donc, je pense qu'elles, par leur expérience de cette vie difficile en tant que victimes du conflit, parce qu'en fait, dans ces zones, elles sont quasi toutes victimes du conflit, elles ont un savoir et moi j'essaye d'aller savoir ce qu'elles savent.
Ouais. Marginalisation à plusieurs niveaux, dites-vous, de genre évidemment, mais aussi ethnique, c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, oui.
C'est un pays multiethnique aussi, la Colombie.
Oui, en effet, c'est un pays multiethnique. En fonction des zones où on se trouve, la composition ethnique varie, mais oui.
Et vous, votre terrain d'exploration, c'est la région de Bajo Cauca? Je prononce mal, excusez-moi.
Bajo Cauca. Bajo, mais ça veut dire bas. Donc, le Cauca, c'est une rivière qui traverse la Colombie en partie.
D'accord.
Et donc, voilà, c'est une sous-région, en fait.
D'accord. Ok. Et donc, vous dites que les femmes qui vivent dans ces zones rurales sont particulièrement touchées par des violences protéiformes, c'est-à-dire...
Donc, comme je disais, il y a encore des violences directes de la part des acteurs armés, mais c'est aussi des violences, par exemple, économiques, qui touchent tout le monde, mais elles sont touchées en particulier parce qu'elles sont femmes. Donc, par exemple, il y a un accès... Enfin, disons qu'il y a un accès à l'éducation très restreint. Il y a aussi un accès au monde du travail très, très restreint. Il y a de l'exploitation minière, donc ça veut dire que parfois l'eau qu'elles utilisent, elle est polluée. Donc ça, c'est aussi une forme de violence. Ce n'est pas une violence directement par un acteur armé, mais le fait que ce soit, enfin, qu'il y ait une exploitation minière là où elles habitent, bah, en fait, ça pollue ce qu'elles consomment. Quoi. Mmh. Et ici, bah, il faut... Donc moi, c'est mon idée, c'est toujours de, comme on dit, mettre les lunettes de genre, donc savoir en quoi un événement influence... différemment en fonction de qui on est, donc homme ou femme, en fonction de, du travail qu'on a, en fonction de, d'autres paramètres aussi. Quoi.
Alors, cette question de l'observation participante, vous dites qu'elle a... Enfin, c'est ce que vous mettez en avant, ce que vous voulez utiliser comme méthode, mais qu'elle a des effets sur vous et sur les participants.
Oui.
Alors,
en fait,
faut expliquer ça,
donc,
François.
Pour être plus complète, je pense que le... Donc, faire du terrain, voilà, ça offre plein d'avantages. Je pense qu'on rentre davantage dans une complexité. On a une vision plus holistique de ce qu'on essaye d'analyser. Mais en fait, il y a aussi un inconvénient, c'est que, en tant que chercheuse, on influence d'une certaine manière le processus de recherche. Mais ça, c'est vrai qu'on fasse du terrain ou pas. Mais en fait, sur le terrain...
Par sa seule présence.
Voilà. Sur le terrain, le fait que je sois, par exemple, étrangère, les femmes avec qui je m'entretiens, elles me perçoivent d'une manière différente que si j'étais de leur communauté. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de faire ce qu'on appelle un retour réflexif. Donc, comment moi, ce qu'on dit en anglais positionality, donc positionnalité ou position de chercheuse européenne, va influencer donc comment moi je perçois ce qu'il est en train de se passer, mais aussi comment elles me perçoivent et est-ce que ça influence ou pas ce qui est en train d'être dit. Donc j'analyse, mais c'est pas vraiment, c'est pas se regarder le nombril et dire juste penser à soi, c'est plutôt mettre en perspective,
prendre conscience,
voilà, le soi, les autres et cette relation et comment ça influence le travail. Et aussi être conscient que parfois, comme il s'agit d'un terrain, un milieu difficile, ma présence peut, si je ne fais pas attention, mais même parfois en faisant attention, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ici, on vit presque au pays des bisounours, dans le sens où il faut vraiment être attentif tout le temps, avoir son système nerveux en action, parce que c'est plus dangereux là-bas. Et il y a des choses qu'on fait, il y a des choses que je fais qui pourraient mettre en danger mes enquêtées, mes participantes à la recherche. Et c'est pour ça que quand on est en immersion comme ça, on apprend vite qu'il y a des choses... par exemple, c'est un détail, mais j'accompagnais une travailleuse et alors elle me dit à partir d'un moment, range ton téléphone, quoi. On prenait le bateau et elle me dit à partir de maintenant, ne sors pas ton téléphone parce que c'est suspicieux. Si les acteurs armés sont présents, ils peuvent te le confisquer. Et parfois, on se dit, mais enfin... On a l'impression d'être parano au bout d'un moment parce qu'on voit un peu le danger partout. Mais peut-être que le danger, il est un peu partout, quoi.
Ranger son téléphone pour éviter de prendre des photos aussi,
oui,
par
voilà,
exemple.
Oui, voilà, pour ne pas prendre des photos ou pour pas qu'on pense que je suis en train d'appeler, d'écrire un message. Après, il y a des endroits où on peut le sortir, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et donc, moi, je fais confiance aux travailleuses que j'accompagne parce que c'est comme ça que je rentre dans les communautés. Parce que
voilà, vous avez besoin d'avoir un... quelqu'un sur le terrain qui puisse vous accompagner,
ouais,
vous donner les codes éventuellement, mais surtout vous faire arriver à destination.
Oui, voilà. Donc, soit ma technique, c'était... Donc, j'accompagnais des travailleuses d'une organisation humanitaire et sociale. Une autre, ça peut, une fois qu'on connaît un peu mieux, ça peut être de connaître quelqu'un de la communauté. Et cette personne vient nous chercher, disons, à l'entrée du village. Et donc, là, on est moins suspect parce qu'on est accompagné de quelqu'un du village. On est accompagné d'une travailleuse humanitaire. Voilà, c'est un peu, ça dépend un peu. Au fur et à mesure, on développe aussi ces stratégies et on met en place des choses. Par exemple, à un moment donné, je voulais rentrer dans un village. Et alors, il y a une des travailleuses qui m'a dit, je vais te prêter mon petit gilet où il est écrit, il y a en grand le nom de l'organisation. Parce que moi, ils me connaissent. Donc, ils, c'est les acteurs armés. Mais toi, ils ne te connaissent pas. Et j'ai renseigné ton nom. Donc, avant d'arriver dans la communauté, la veille ou l'avant-veille, elle donne son nom et mon nom à quelqu'un dans le village qui est responsable un petit peu. Donc, c'était le président de l'assemblée communale. Et ce président le donne à la personne responsable du côté du groupe armé. Et donc, il savait qu'on allait rentrer dans le village. Mais par précaution, voilà, elle me donne son petit gilet et elle, ils la connaissent. Donc, ils savent qui elle est et ce qu'elle fait. Mais moi, ils ne me connaissent pas. Donc, voilà. Et donc, parfois, on se dit, oula, on sent tout de suite le danger. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qui est différent quand on fait du terrain. C'est qu'on fait directement l'expérience de ça. Donc, savoir que ça peut être dangereux de faire du terrain et se sentir en danger d'une certaine manière, même si on prend toutes les précautions, quand on le fait, c'est totalement différent, quoi.
Mais là, ça sort totalement, si je comprends bien, François-Hubert, de la structure étatique. Là, on est dans l'informel total.
Oui, oui.
Il y a une faillite du système à ce niveau-là.
Oui. Ben, en fait, donc... on parle parfois de l'absence de l'État, donc ça à remettre un peu en question parce que parfois l'État est présent dans le sens où il y a les forces armées et les forces armées officielles de la Colombie ont aussi commis des crimes contre l'humanité pendant les moments les plus chauds du conflit. Donc il y a une présence de l'État, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je me souviens d'une enquêtée qui m'a dit, enfin ou d'une participante qui m'a dit, on vit dans une dualité. Ça veut dire que parfois, pour demander certaines choses, on demande au groupe armé. C'est eux qui contrôlent. Et puis parfois, on va demander aux autorités locales, quoi, de la ville ou du village. Et donc, il y a toujours ce jeu entre les deux. Et ces personnes qui vivent dans cette dualité savent très bien comment procéder, quoi.
Mais attendez, quand vous parlez d'autorités locales, ce ne sont pas des autorités officielles, quand même.
Officielles, oui, genre... la ville, quoi.
Alors, votre approche par le bas, hein, dont vous nous parlez maintenant, France Hubert, est plus qu'intéressante. Surtout que quand on a entendu parler des FARC à l'époque, on a surtout entendu parler des otages, par exemple, dont une célèbre qui est restée dans les mémoires, Ingrid Betancourt, pour ne pas la nommer. Vous, ce n'est pas du tout votre manière d'approcher les choses. Il n'en demeure pas moins que ça reste un peu dans l'inconscient collectif, ces prises d'otages avec quelques personnalités de marque.
Ouais, c'est une des choses que les Colombiens et Colombiennes détestent le plus, c'est la prise d'otage. Il n'y a pas très longtemps, j'arrive plus à situer dans le temps, mais le père d'un footballeur assez connu qui s'appelle Luis Diaz, qui joue à Liverpool, donc il joue à l'étranger, donc déjà ça met la Colombie sur la carte d'une manière pas très positive. Donc son père s'est fait enlever par un groupe armé. Après, ils ont dit que c'était une erreur, etc. Surtout qu'ils sont dans un processus de pourparlers avec le gouvernement. Donc plusieurs des groupes sont dans des pourparlers avec le gouvernement, parfois dans des cessez-le-feu entre le gouvernement, enfin avec le gouvernement, avec l'État. Et donc ça reste vrai. Il y a encore des gens qui se font enlever. Là, on en parle, on en a parlé pas mal parce que c'est le père d'un footballeur qui joue en Angleterre. Donc ça a été très médiatisé, mais il y a encore des gens qui se font enlever tous les jours. Il y a des gens qui se font tuer tous les jours, quoi.
Pour des raisons diverses et variées, j'imagine, ouais. Parce qu'on associe quand même très souvent encore, pardon pour les quelques clichés que je vais asséner maintenant, France-Hubert, mais la Colombie a quelques villes, Bogota, Medellin, et ses cartels.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce qu'on en est, parce que vous parliez effectivement la culture du coca, et donc tout ce qui est en... tout ce qui en suit, tous les dérivés, mais aussi l'exploitation minière. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs trafics aujourd'hui en Colombie. Comment sont-ils encadrés? Comment sont-ils? Comment s'organisent-ils sur le terrain?
Ouais, ben donc c'est ça qui fait que le conflit se perpétue. Hein. Donc le but des FARC à la base c'était de prendre le pouvoir à Bogota. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un groupe armé qui pense qu'il va prendre le pouvoir à Bogota et renverser le gouvernement. Et donc, comme dans d'autres pays qui n'ont pas eu de conflit, les acteurs armés, ben voilà, ils gèrent le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic de... Enfin, tout ce qui est issu de l'exploitation minière illégale. Et ça, ça finance leur... c'est ça qui peut financer l'achat d'armes, etc. Donc, c'est le moteur actuel de la violence, quoi.
Alors, les gens que vous rencontrez lors de vos observations, j'imagine qu'ils travaillent de temps en temps pour ces exploitations minières, pour la culture illégale de certaines substances, enfin, de certaines, du coca, pour le dire simplement. Donc, ça veut dire qu'ils sont finalement, d'une certaine manière, au service d'eux.
Oui, donc c'est un peu compliqué. Dans beaucoup de... dans certaines communautés que j'ai rencontrées, donc... Voilà, ça a toujours été comme ça, entre guillemets, ou alors on leur a fait planter des plants de coca dans les années 90. Il faut savoir qu'à un moment donné, le gouvernement colombien aspergeait de glyphosate pour éradiquer, parce qu'on disait « Ah, mais si c'est la coca qui fait tourner les acteurs armés, alors si on éradique les plants de coca, alors il n'y a plus de conflit. » Quand on se fait asperger de glyphosate par avion, ça a des grosses conséquences. Mais voilà, c'est des gens qui ont un job, parce qu'en fait, ça rapporte bien. Voilà, on plante le coca, on plante les plants de coca, on récolte, on en fait la pâte, on vend la pâte dans des endroits où l'économie, elle marche au ralenti. Je veux dire, il n'y a pas d'opportunité de travail. Vendre... ils mangent pas mal de bananes plantain ou de manioc ou enfin n'importe quel autre produit alimentaire qu'on produit ne va jamais rapporter autant que la coca. Donc ça fait partie de l'économie. Et je pense que ces personnes qui récoltent, c'est des paysans, ils viennent de familles de paysans, ils récoltent la coca, ils la vendent et ça leur fait un revenu. Voilà, enfin, il faut essayer de rendre un peu ça plus complexe parce qu'ils savent que ils savent où ça va et ils savent ce qu'ils sont en train de produire, mais ça fait partie de, de l'économie locale, quoi.
Oui, c'est pas comme s'ils avaient énormément d'autres opportunités.
Exactement,
d'autres choix.
Ouais.
Cette phrase, ici nous apportons des graines de paix et d'espoir pour la construction d'une nouvelle région, ça vous évoque quelque chose?
Oui, donc ça c'est... c'était à l'entrée d'un village. Il faut savoir qu'il y a souvent des fresques. C'est un art très répandu en Amérique du Sud. Et là, il y a pas mal aussi de... on essaie de rassembler la communauté d'un village autour d'un projet. Et alors, on fait une fresque. Et alors, il y a tout un travail, parfois par des artistes. L'idée de... rassembler parfois des victimes et des bourreaux, parfois des femmes, parfois une communauté, et de faire un projet artistique. Donc ça, c'est plutôt répandu. Mais là, il s'agit plutôt d'une photo que j'ai prise. Et alors, il y a toute une histoire...
Vous aviez eu l'occasion de sortir votre téléphone.
Voilà.
La photo, dans cette zone-là.
Exactement. Je prends la photo, mais après, la personne qui m'accompagne me dit, je te l'envoie et puis je supprime le message et je supprime la photo que je viens de prendre. Donc moi, j'allais le recevoir, la recevoir plus tard parce qu'on ne sait jamais que... Donc à ce moment-là, on est dans un bus. Et moi, j'ai vu la photo en arrivant dans la communauté et je veux prendre la photo en sortant. Et donc voilà, elle prend la photo avec son téléphone, elle me l'envoie, elle supprime la photo, elle supprime le message. Moi, j'allais de toute façon le recevoir plus tard. Et voilà, ben ça fait partie des règles de sécurité mises en place. Donc, c'est des stratégies du quotidien, en fait. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a toujours un acteur armé qui peut débarquer dans le bus, qui peut vérifier les téléphones. Et donc, voilà, ça fait partie des stratégies qu'on
met. Mais cette phrase ici, nous apportons des graines de paix et d'espoir pour la construction d'une nouvelle région. Mmh. A priori, elle n'est pas particulièrement politique.
Non, non.
Mais elle avait été surtaguée, c'est ça?
Oui, en fait... C'était pour moi cette fresque et cette phrase sur cette fresque. Il y avait un tag au-dessus, par-dessus du groupe armé et même du front en particulier de ce groupe armé, donc front unité, quoi, unité de combat. C'est ce que je fais en fait, c'est ce que je recherche, c'est ce qui m'intéresse. Donc à la fois, il y a toutes des dynamiques mises en place au plus haut niveau de l'État comme au plus bas, donc des gens entre eux, des citoyens entre eux et des citoyennes qui essayent de construire une paix quotidienne. Puis alors il y a en effet cet accord de gouvernement, mais en parallèle, il y a toujours des violences, il y a toujours des groupes armés et ce sont des gens qui vivent cette situation depuis plusieurs décennies, quoi.
Vous témoignez d'une certaine manière.
Oui.
Avec évidemment une recherche scientifique derrière. Vous avez fait un voyage dernièrement, France Hubert, là-bas, dans cette région de Barokoka.
Oui.
c'était en printemps, début de l'été dernier.
Ouais.
Vous allez quoi, plusieurs fois au cours de votre thèse, aller sur le terrain, j'imagine. Vous avez des perspectives déjà?
Oui, donc la prochaine fois, ce sera à partir de janvier 2025.
D'accord.
L'idée, comme c'est ma méthode de récolte de données... C'est l'idée d'y retourner le plus souvent possible. Bon, évidemment, mon monde, je devrais m'asseoir et écrire ma thèse, mais pour le moment, c'est d'y retourner le plus
possible. Collecte d'informations. Méthode d'immersion, pendant combien de temps alors?
Ça dépend un peu. Et puis bon, parfois, c'est difficile parce qu'on a l'habitude de son confort, etc. Et que quand on est dans les communautés, on dort dans un hamac. C'est une légère perte de confort. Et puis, c'est très stimulant parce qu'on est toujours vigilant à tout. Et en plus, c'est un travail. Donc, je fais des entretiens, parfois lourds, parce qu'on raconte des choses qui sont très difficiles émotionnellement. Mmh. Et puis, j'observe tout ce que je peux observer. C'est fatigant, en fait. Mais j'ai toujours l'occasion de bien me reposer après, donc ça va.
Et les gens que vous rencontrez, que vous interviewez, avec lesquels vous échangez, ils sont en confiance ou comment les mettez-vous en confiance?
Ok, donc ça c'est très difficile et c'est pour ça aussi que c'est important de faire ça sur la longueur pour pas que ce soit pour pas que ce soit une exploitation. Donc c'est l'idée de développer une relation avec. Donc par exemple,
plusieurs temps.
Voilà, par exemple, les femmes avec qui j'ai parlé la dernière fois, parfois on s'envoie des messages via WhatsApp, on garde en contact. J'avais pas envie d'un travail trop extractif, même si je sais que ça le reste et qu'il y a des enjeux de pouvoir par le fait que je suis une chercheuse. Et donc, la relation de recherche, c'est toujours une relation qui renferme des enjeux de pouvoir. Je pense qu'en y étant, c'est un retour sur la réflexivité, mais... On y pense, on y réfléchit et on essaye de trouver des stratégies pour médier à ça. Mais en effet, par exemple, il y a des femmes qui veulent bien m'expliquer des choses, mais qui ne veulent pas que ça apparaisse. Donc je sais que je vais orienter ma recherche.
Une certaine dose d'anonymat.
Ça c'est sûr et certain. Mais je veux dire, c'est des choses qu'on me dit, mais que je sais que je ne vais pas en faire quelque chose, mais je le sais et ça oriente ma recherche.
Sur la question du pouvoir attribué aux chercheurs. Très intéressant. Merci beaucoup, France Hubert. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques, membre du CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique, et que vous réalisez une thèse de doctorat donc sur la participation des femmes rurales au processus de paix en Colombie. Merci.
Merci beaucoup.
vous rappelle que France Hubert mène une thèse qui porte sur la participation des femmes rurales au processus de paix en Colombie, et plus particulièrement dans les zones où le conflit persiste. Elle explore en gros la dimension du genre dans la construction de la paix, et cela dans le sillage des études féministes sur la paix et les conflits. C'est sa thèse de doctorat. France Hubert est attachée au CEVIPOL, le centre d'études de la vie politique de l'ULB. Elle est doctorante en sciences politiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.